La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission scientifique qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. Et pour notre escale du jour, nous vous proposons un voyage à travers l'espace et le temps. Direction les Antilles, gouvernail réglé sur moins 30 millions d'années. L'archipel dans lequel nous naviguons est peuplé d'îles fantômes, englouties bien avant que ce monde ne devienne le nôtre. Des îles abritant d'antiques rongeurs dont nos invités du jour ont remonté la trace à partir d'une simple dent. Une quenotte vieille de 32 millions d'années, dont le propriétaire est issu d'une espèce venue d'Amérique du Sud, soit une distance à la nage de plusieurs centaines de kilomètres, balèze. Vous n'y croyez pas ? Vous avez raison. Nos deux invités du jour démontrent dans une étude récente que la découverte de ces fossiles, révèle l'existence il y a 30 millions d'années d'un pont terrestre, ou comme on le verra, d'une multitude d'îles, entre le continent sud-américain et les Antilles, ayant permis à ces petits mammifères de migrer pour coloniser ces îles avant qu'elles ne soient finalement englouties. Vous l'avez compris, notre destination du jour est l'Atlantide et nos guides sont Pierre-Olivier et Antoine, paléontologues à l'ISEM. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour.
Et Philippe Munch, géologue à Géosciences Montpellier.
Bonjour.
Avec moi, comme chaque semaine, pour fouiller cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour à tous.
Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, la rubrique en salle des machines continue de creuser, mais cette fois-ci dans la salle des sédiments, située dans les sous-sols de l'ISEM. On appelle ça les roches d'ISEM, c'était obligé. Et c'est Quentin Vautrin qui nous les fait découvrir. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors, pour commencer, dans la science s'amuse, on ne rate pas une occasion de voyager. Donc, on va vous demander de nous parler de ce terrain qui a l'air assez formidable. Donc, peut-être vous, Pierre-Olivier, Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe sur le terrain, donc quand on fait de la paléontologie, et notamment ce terrain-là?
Alors, en premier lieu, ça se passe bien, parce que c'est chouette le terrain, et qu'on est beaucoup en manque en ce moment, d'ailleurs, de terrain. Le terrain, en fait, il se passe en paléontologie de manière assez ludique au début. On prospecte, on essaie de trouver les endroits les plus favorables à la découverte de fossiles, et une fois qu'on a ciblé un endroit, alors on va commencer le travail de forçat. Et ce travail de forçat revient à récolter du sédiment, à le tamiser, à le passer au crible 5 grammes par 5 grammes les soirs, après le terrain. Bon, souvent dans les Caraïbes avec un petit peu de rhum, quand même. Il faut bien du carburant. Hein.
Alors 5 grammes par 5 grammes, on est bien d'accord quand on voit l'aspect titanesque de la tâche, 5 grammes par 5 grammes, et vous en tamisez combien de la terre comme ça ?
Parfois plusieurs tonnes. Là, sur les campagnes dans les Antilles, c'est de l'ordre de 800 kilos.
Quand même.
Et du coup, ce terrain dans les Antilles, ou plus spécialement à Porto Rico, ce projet qui s'appelle Garantie, comment il est né ? Pourquoi est-ce que vous êtes allé à Porto Rico et aux Antilles ?
Alors, on est allé dans cette région parce que Géosciences Montpellier travaille depuis plusieurs années dans les Antilles.
Vous y êtes allé également, Philippe ?
Oui, je suis allé sur le terrain en compagnie des paléontologues, en compagnie de géologues. Et c'est une région où il y a des tout petits bouts d'îles perdus dans l'océan. Et pour avoir une connaissance géologique, on va dire, la plus complète possible, il faut regarder ce qu'il y a au fond de la mer. Donc j'ai aussi fait du terrain à bord d'un bateau grâce à une campagne océanographique, la campagne Garantie, à peu près le même nom que le projet, où on a passé 4 semaines en mer. Et au cours de ces 4 semaines, on a fait une exploration géophysique des fonds marins et on a dragué, ramené des roches du fond de la mer, des roches qui nous ont prouvé que ces roches, un jour, étaient à la surface de la Terre, étaient bien des îles, il y a plusieurs dizaines de millions d'années.
Et alors, on envoie des plongeurs ? Comment vous faites pour...
Alors, une drague, ça ressemble un petit peu à un grand filet d'acier muni de dents aiguisées à une extrémité, le filet fermé à l'autre extrémité. Le bateau jette ce filet au fond de la mer, qui pèse plusieurs centaines de kilos. Il s'accroche grâce à ses dents, et il arrache des roches grâce à la traction du bateau. Et ensuite, on remonte ce filet chargé de roches et on étudie ces roches à bord du bateau pendant la nuit. On fait des quarts, là, ça, c'est les 3-8. On fait les 3-8 pendant toute la durée de la mission. Et on étudie ces roches et on étudie tous les relevés géophysiques, très nombreux relevés géophysiques qui ont été faits pendant les 4 semaines de mission.
Et vous nous parlez dedans, la transition est toute trouvée. Je vais vous demander, Pierre-Olivier et Antoine, vous m'aviez raconté que si vous étiez arrivé à Porto Rico, c'est parce qu'il y avait un chercheur de là-bas qui avait trouvé une dent qui avait quelque chose de particulier, c'est ça ?
Effectivement, c'est notre collègue du musée de Los Angeles, Jorge Vélez-Juarbe, qui est portoricain et qui a trouvé, quand il était vraiment tout jeune étudiant, dans les années 90, deux fragments de dents qui sont des incisives de rongeurs. Alors, il les a pas trouvés n'importe où, il les a trouvés dans une cage thoracique de siréniens, de vaches marines, dans des dépôts marins. C'est vraiment parmi les découvertes les plus improbables en paléontologie. Et ces incisives ont pu être étudiées, et leur microstructure, la microstructure de l'émail, a révélé qu'ils étaient potentiellement d'origine sud-américaine. Début de l'aventure.
D'accord, alors... début de l'aventure, mais alors elles sont datées. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, donc ces fossiles que vous avez retrouvés, et nous expliquer comment, parce que la datation révèle des informations assez extraordinaires. Alors
là, il s'agissait d'incisives, les dents qui poussent tout le temps à l'avant du crâne de ces rongeurs. Et on est allé sur le terrain pour trouver d'autres dents qui aient une meilleure signature et qui nous permettent d'identifier plus facilement leurs propriétaires. Ces dents... des molaires, on en reparlera probablement, ont vraiment une signature de rongeurs sud-américains. La datation ne vient pas de ces rongeurs-là qui sont nouveaux. On ne peut pas dater des sédiments à partir de quelque chose, enfin d'un animal qui est nouveau. Puisqu'il est nouveau, il peut être nouveau n'importe quand.
D'accord.
Donc, on travaille en collaboration avec des géologues et il y a d'autres moyens indépendants de dater qui sont précisément les datations, soit par les microfossiles, soit...
Alors, les formations qui encadrent les formations où il y avait les rongeurs, les formations marines, elles contiennent des microfossiles marins qui ont été étudiés et qui permettent de faire une datation qu'on appelle biostratigraphique, grâce au contenu biologique. Et donc, ces foraminifères, on sait dans quelle tranche de temps ils vivent dans l'océan mondial au cours de l'histoire de la Terre. Mais autrement, on peut également dater des roches qui contiennent des éléments radioactifs, des roches volcaniques par exemple, et on est dans des îles qui étaient volcaniques tout au long de leur histoire. Et là, on utilise les propriétés des isotopes radioactifs qui se désintègrent à une période que l'on connaît. Et donc, en mesurant la quantité d'isotopes radioactifs dans ces roches, on peut mesurer l'âge et obtenir un âge numérique pour ces roches qui sont au-dessus ou en dessous des fossiles qui nous intéressent dans le cadre de l'étude.
Et donc, quand vous découvrez ces dents-là à cet endroit-là, vous arrivez à dire qu'elles appartiennent à des rongeurs qui viennent d'Amérique du Sud. Comment est-ce que vous faites pour déterminer que ce sont les mêmes familles d'animaux ?
Tout simplement parce qu'on travaille aussi en Amérique du Sud, et notamment en Amazonie, et qu'il se trouve, par le plus grand des hasards, que ces animaux-là, ces dents-là, ont vraiment un patron dentaire, une morphologie, une forme, qui est sans aucun doute... celle de rongeurs qu'on ne connaît à l'époque qu'en Amérique du Sud, et qu'on connaît toujours en Amérique du Sud d'ailleurs, puisque c'est le grand groupe des chinchillas.
D'accord, donc les héritiers, ce sont les chinchillas en fait.
C'est ça, les petits-neveux.
Alors, donc on l'a dit en introduction, donc on part de ce constat. Vous avez trouvé donc des rongeurs à Porto Rico, dont l'origine est Amérique du Sud. À partir de là, on fait quoi comme hypothèse ? En introduction, on l'a dit, ils ne sont pas arrivés à la nage, ces rongeurs.
Alors, ils sont connus depuis très longtemps, ces rongeurs, et d'autres espèces aussi sont connues depuis longtemps, parce que Darwin, dès l'époque de Darwin, au 19e siècle, il s'était posé la question de savoir comment ils étaient arrivés là. C'est la question que vous me posez, qui se pose donc depuis 2 siècles maintenant. Et les dernières réponses qui avaient été apportées datent de la fin du XXe siècle, dans les années 1990. Et un chercheur cubain, Manuel Iturralde-Vinent, et un chercheur américain, Ross McPhee, avaient proposé une hypothèse d'un pont continental qui aurait relié l'Amérique du Sud jusqu'à Porto Rico et aux Grandes Antilles. Ce pont continental, aujourd'hui, c'est une région immergée, sauf en un point, une toute petite île de quelques centaines de mètres de long, qui s'appelle la Ride d'Aves, donc qui est un relief sous-marin. Donc ça, c'est la première hypothèse. Hypothèse qui peut se vérifier géologiquement. C'est pour ça que nous, les géologues, on s'en est emparés pour aller à la recherche de ces îles qui auraient existé et qui seraient aujourd'hui disparues. Et l'autre hypothèse, qui est plutôt liée à la biologie, ce serait le transport par des radeaux naturels flottants, des fragments de forêts tropicales qui auraient été portés par les courants et qui auraient transporté les habitants de ces radeaux jusque dans les îles. Et vous disiez plusieurs centaines de kilomètres. Oui, on dépasse 800 à 900 kilomètres pour les points les plus éloignés.
Et ça, c'est celle du radeau, c'est une hypothèse qui a été écartée ou ça fait toujours partie des possibilités?
Ça fait toujours partie des possibilités.
Exactement, toujours partie des possibles. Et c'est d'ailleurs, dans un autre contexte, l'hypothèse qui tient encore la corde pour la dispersion des rongeurs et des primates depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud, il y a une quarantaine de millions d'années, lorsque cet océan Atlantique équatorial mesurait 800 à 900 km de large.
D'accord, et il en fait combien maintenant?
Beaucoup plus, oui.
Et justement, du coup, vous, en tant que géologue, vous essayez d'expliquer comment se sont formées ces îles-là. Comment est-ce que vous travaillez pour émettre ces hypothèses-là? Est-ce que vous faites de la modélisation sur un tel passé ou...
Alors, la modélisation, elle arrivera en dernier, mais il y a d'abord le travail de terrain et de bénédictin, si je puis dire. On ne tamise pas des tonnes de cailloux, nous. En revanche, on en ramasse beaucoup, on les étudie beaucoup en lame mince, on les étudie beaucoup en microscopie électronique, etc. Et en particulier, il y a le travail d'un collègue qui s'appelle Jean-Jacques Cornet, qui a fait une énorme synthèse de toute la géologie des îles du nord des Petites Antilles. Donc, on va dire depuis presque la Guadeloupe jusqu'à Porto Rico. Et dans toutes ces îles, il a étudié les formations géologiques qui gardent dans leur sein des traces d'émersion, c'est-à-dire parfois des fossiles, mais souvent des formations sédimentaires qui n'existent qu'en milieu continental. Et donc, toutes ces traces d'émersion, il les a collectées, il les a fait dater. Donc, on a collaboré avec des collègues qui font de la micropaléontologie dont on parlait tout à l'heure, ou d'autres qui font de la radiochronologie. Et donc, il a pu ainsi redessiner des contours d'îles, alors à partir de ce qui était vu dans les îles, plus toutes les données qu'on avait collectées grâce à la campagne marine, donc campagne de géophysique et de géologie marine, où, par exemple, quand on trouve des vallées qui ont été creusées dans les roches, ces vallées, elles ont été creusées à la surface de la Terre. Et ces vallées, on est capable de les retrouver aujourd'hui, enfouies sous plusieurs centaines, voire milliers de mètres d'eau. Et donc, le travail va consister en une énorme synthèse qui, aujourd'hui, aboutit à des cartes géographiques, on dit paléogéographiques, puisque ce n'est pas la géographie d'aujourd'hui, mais c'est la géographie, jusqu'à 40 millions d'années en arrière. Et c'est un travail qui vient d'être publié dans une revue scientifique de renom.
Alors, justement, tous ces travaux, toutes ces découvertes, qu'est-ce que ça nous apprend de la formation des Antilles? Comment elle s'est formée, cet archipel?
Alors, il ne faut pas oublier que les Antilles sont des îles volcaniques. On est dans un contexte dit de subduction. La surface de la Terre est découpée en plaques, plaques lithosphériques, on les appelle, et de temps en temps, certaines plaques passent sous une autre. Et à l'aplomb de ces régions-là se forment des volcans, des arcs volcaniques, et l'arc des Petites Antilles est un arc volcanique. Donc une partie de l'histoire de ces îles est liée au volcanisme et à l'histoire profonde de la Terre, dans ce qui se passe à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, permet de créer des reliefs en surface, des reliefs volcaniques. Mais en même temps, ça déclenche des forces qu'on appelle forces tectoniques qui font que la surface de la Terre peut se soulever ou s'affaisser. Et lorsqu'elle se soulève, on va créer des reliefs, on va créer des îles en quantité. Pourquoi pas un pont continental? Nous, on préfère parler de chapelet d'îles, mais des îles dont les surfaces, je veux dire, sont énormes. Si on regarde le nord des Petites Antilles, à un moment donné, ça a été une seule et même île, c'est-à-dire plus grande que Cuba, aujourd'hui, qui est une île énorme. Donc, de fait... Pardon, j'ai perdu le fil.
Il n'y a pas de problème. C'est une longue histoire.
On arrive à faire ce travail-là en faisant à la fois un travail sur les roches et la géophysique marine. Et ça, c'est très important puisque c'est la zone qui est la surface la plus grande. Et en même temps, en faisant un travail de géologie à terre, en faisant une collecte d'échantillons et une étude d'échantillons qui est vraiment énorme, puisque ça va depuis la Guadeloupe, je vous dis, jusqu'à Porto Rico.
Et juste pour resituer un peu dans le passé, parce qu'on ne se rend pas compte, maintenant, on a les cinq continents avec la planète telle qu'on la connaît. À l'heure actuelle, ça ressemblait... À l'époque, il y a 30 millions d'années, ça ne ressemblait pas du tout à ça, à la surface du globe.
Non, pas du tout. Mais par exemple, le détroit de Panama était ouvert. Il y a l'océan Atlantique et l'océan Pacifique communiquaient librement. Les courants marins étaient différents.
l'Amérique du Sud était elle-même baignée par une mer au niveau de l'ouest de l'Amazonie. Et tout ça, c'est complètement différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et c'est vraiment très, très contre-intuitif.
Et alors, donc, ces rongeurs que vous avez, ces traces de rongeurs que vous avez découvertes, ils sont devenus quoi ? Aujourd'hui, on a encore sur ces îles des rongeurs, des descendants, en tout cas.
Certaines de ces îles ont eu très longtemps des rongeurs. C'est le cas de Porto Rico, notamment, dont les derniers représentants, les derniers petits-neveux de ce Bourrichenomys se sont éteints il y a quelques milliers d'années.
Bourrichenomys, c'est celui dont vous avez trouvé les dents.
Bourrichenomys, c'est celui qui a une trentaine de millions d'années à Porto Rico. Donc le petit-neveu, il s'appelait Elasmodontomys et il s'est éteint il y a quelques milliers d'années. Il est contemporain de la première occupation humaine de Porto Rico.
D'accord.
Dans d'autres îles, notamment au nord des Petites Antilles, pardon, en particulier à Saint-Martin, et à Anguilla, il y a également un énorme rongeur qui s'est éteint il y a quelques dizaines ou centaines de milliers d'années.
Donc quand on dit énorme, entre les deux, vous pouvez nous donner une échelle
jusqu'à
de taille.
150 kilos.
D'accord.
Ah oui.
Un gros rongeur qui s'appelait Amblyrhiza et qui est vraiment l'animal emblématique de ces îles-là.
Et du coup, pour revenir un peu... quelque chose d'un peu plus d'actualité, on nous parle maintenant du protocole de Nagoya qui fait que les chercheurs peuvent plus difficilement ramener du matériel quand ils vont sur le terrain. Comment ça fonctionne pour vous en tant que géologue et en tant que paléontologue? Est-ce qu'il y a des contraintes ou est-ce que vous pouvez continuer à ramener soit des roches, soit des fossiles dans vos laboratoires après vos campagnes de terrain pour les étudier?
Alors, pour le géologue, c'est relativement plus simple que le biologiste en particulier et on peut encore ramener des échantillons. En revanche, on est maintenant amené à les répertorier de manière très fine, de manière... on va dire, de la même manière tous, pour que ça rentre dans des bases de données à l'échelon national, l'échelon européen, voire mondial, avec, avec les coordonnées GPS, un descriptif rapide, s'il y a des organismes qui ont été découverts dedans, la liste des organismes, s'il y a des datations qui ont été réalisées, les datations. Donc on fait en sorte qu'il y ait une base de données, mais aujourd'hui, on peut encore ramener des cailloux de l'autre côté de la planète, sans pour autant être embêté.
Et vous, Pierre-Olivier Antoine, c'est pour les fossiles?
Pour les fossiles, c'est un peu plus compliqué, ça va le devenir. Le protocole de Nagoya, c'est un protocole de partage des avantages et des savoirs et lié aux ressources génétiques. Or, les fossiles, jusqu'à une période récente, étaient complètement exempts de ressources génétiques. En fait, c'est des fossiles, c'est des cailloux. Donc, on revient à l'intervention de Philippe. Le problème est que, de plus en plus, on arrive à reculer dans le temps pour l'identification de séquences de protéines ou de séquences d'ADN qui sont piégées dans ces fossiles. Et pour l'instant, on remonte jusqu'au dernier million d'années. Ce qui veut dire que pour des fossiles à Porto Rico qui ont 29 millions d'années, aucun problème. C'est une autre réglementation que le protocole de Nagoya qui s'applique, avec la non-circulation de fossiles qui appartiennent à un patrimoine local, régional ou national. Mais... probablement dans un avenir proche, on sera amené, même en tant que paléontologue, à suivre le protocole de Nagoya à la lettre.
Vous allez devoir aller plus souvent sur le terrain alors?
Si, mais on le préparera mieux en avant avec un partage des connaissances et des savoirs et des avantages qu'on fait, notamment en allant présenter des conférences ou en aidant les populations locales.
Et le travail sur le terrain n'est pas encore fini, les rongeurs n'ont pas révélé tous leurs secrets, c'est bien ça?
Les rongeurs et la géologie n'ont pas fini de révéler leurs secrets et on espère bien pouvoir y retourner très 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 prochainement.
Et on vous le souhaite aussi. Un grand merci à vous deux, Philippe Munch et Pierre-Olivier Antoine, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Et on passe maintenant à notre séquence en salle des machines. Et cette semaine, c'est Aline qui nous emmène à l'ISEM, dans la salle des sédiments. Un sous-sol empli de cailloux avec des vrais morceaux de fossiles dedans, c'est elle qui le dit. Et c'est Quentin Vautrin, paléontologue, pardon, qui nous fait la visite.
Oui, qu'est-ce que vous voyez?
Un iceberg droit devant!
Quentin Vautrin, je suis paléontologue à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et aujourd'hui, je suis en fait chargé de totalement réorganiser la salle des sédiments de notre laboratoire, puisque c'était une salle qui était utilisée depuis le début en fait, du laboratoire dans les années 60. Et en fait, il y avait besoin totalement de revaloriser, réorganiser, aussi découvrir ce qu'on avait, parce que c'était pas forcément quelque chose qui était remis au goût du jour, qui était actualisé. Et donc, il il fallait le faire. Donc il fallait trouver quelqu'un et ça a été moi.
Alors je vais décrire un peu où on est, la fameuse salle des sédiments. En fait, on est dans les sous-sols de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Alors c'est assez bas de plafond, il faut faire attention. Et on a des rangées entières, en fait des sacs avec des cailloux dedans, c'est ça ?
C'est ça. En fait, il faut savoir que lorsqu'on va sur le terrain, on trouve des fossiles, donc là on est content, on fait des plâtres, on les récupère, donc ça prend pas forcément beaucoup de place. Mais des fossiles, y en a qui font quelques millimètres. Et pour les trouver, à l'œil nu, c'est difficile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sacs de sédiments. Alors avant, on prenait des énormes sacs en toile de jute, maintenant c'est plutôt des sacs plastiques. Et donc on prend du sédiment, et parfois il faut plusieurs tonnes pour trouver une dent. C'est déjà arrivé à des collègues en Afrique du Nord par exemple, donc... On récupère, on amasse et ensuite on va le traiter au laboratoire, notamment avec de l'acide. Enfin, ça va dépendre totalement du type de roche, mais d'habitude c'est de l'acide. Mais en attendant d'être traité, il va falloir les stocker. Là, dans notre réserve, on a plus de 1200 sacs. La moyenne des sacs, c'est environ 15-20 kilos. Donc je vous laisse imaginer le volume. Et c'est pour ça que comme on revenait de mission, on est fatigué, on pose le sac sur une étagère. Et ça va s'accumuler. Donc ça prend vraiment tout le sous-sol, là où on est. On a, je sais pas, une trentaine de mètres, comme ça.
Et j'ai pas fait le calcul, on parle de volume. Est-ce qu'on peut parler de poids ? Il y a combien de kilos, de tonnes de roche dans ce sous-sol ?
Il y a vraiment plusieurs tonnes, mais je ne sais... À la base, on devait tout mesurer, tout peser, et on a vite arrêté, parce que c'était une tâche qui était vraiment trop importante. On a vraiment plusieurs centaines de tonnes, je crois, ici.
Alors, si je m'avance un petit peu dans les allées, en fait, on a certains sacs où on voit qu'on a des roches, des graviers, je veux dire, de très petite taille, et d'autres où on a vraiment des cailloux, littéralement, de plus grosse taille. Là-dedans, il y a des fossiles.
Ah bah, oui. Même là, on peut voir, on a des caisses où il y a le fossile qui est apparent, parce que c'est ce qu'on appelle, par exemple, des brèches. Mais en fait, ça va dépendre totalement du type de roche, du type de terrain qu'on étudie, mais parfois, on a des brèches, donc c'est des roches qui sont assez compactes, où c'est fait de divers éléments, donc vous avez à la fois des éléments qui sont purement géologiques, donc vous avez la roche avoisinante, mais vous avez aussi, parfois, le fossile qui affleure directement. On peut voir des dents, on peut voir des petits morceaux d'os. Là, par exemple, on a des os qui viennent du site de la Colombière, et dedans, on a une roche qui est constellé de petits fossiles blancs, de petits os qui apparaissent, parce que c'est une fissure qui se remplit, en fait c'est une sorte de piège naturel, vous avez une fissure, où vous avez des animaux qui vont mourir, vous avez le sédiment qui vient les recouvrir, et après au fur et à mesure des millions d'années, vous avez en fait le fossile qui se forme. Là c'est compact, c'est quelque chose qui est assez grand, on l'a débité à la pioche, mais il va falloir le travailler et donc on va le faire baigner dans de l'acide pour dissoudre le sédiment, mais pas le fossile. Et tous les sacs où on voit où on a des petits gravillons, et c'est ce qu'on appelle du résidu de lavage. On l'a lavé, on l'a passé au tamis, d'abord le gros tamis, puis on l'a relavé, on l'a repassé au petit tamis, etc., etc. Donc ça fait des espèces de sacs, on dirait des sacs de sable, mais en fait c'est des sacs de sédiments, petits sédiments, des tout petits grains de sédiments, et il y a les fossiles dedans. Et ensuite, la tâche qui est un peu moins intéressante, en tout cas un peu plus fastidieuse, c'est de trier ce sédiment. Donc, on prend le sédiment et à la loupe, et à la pince à épiler, on trie. Ça, c'est un grain, ça, c'est un grain. Ah, ça, c'est un petit bout d'os, on garde. Ça, c'est un grain, etc., etc.
D'où ils viennent, ces sacs de sédiments ? Ils ont été prélevés partout dans le monde par les paléontologues ?
Alors, la plupart des sacs viennent de France, mais on a aussi des sacs qui viennent un peu d'ailleurs. On a des sacs qui viennent des missions du Pakistan, qui ont été faites dans les années 90, début des années 2000. On a aussi beaucoup de sacs qui viennent d'Afrique du Nord, où là aussi, le labo historiquement a beaucoup travaillé, ou aussi en Amérique du Sud. En Argentine, notamment, ou le long de la cordillère des Andes.
Et quand les paléontologues partent comme ça à l'étranger sur le terrain, ils ramènent toujours des sédiments à étudier ici au laboratoire ?
Alors ça dépend totalement de la législation des pays dans lesquels on va, ou des accords qu'on a. Par exemple, en Afrique du Nord, on n'avait pas trop de mal à faire venir des sédiments. On a eu beaucoup, beaucoup de sédiments. Mais par exemple, pour ce qui est l'Amérique du Sud, on a beaucoup moins de sacs parce que les paléontologues de là-bas préfèrent que l'on traite le sédiment sur place, qu'on trie le sédiment sur place et qu'on récupère que ce qu'on a besoin. Parce que c'est toute une question aussi de patrimoine. Le sédiment, les fossiles, c'est du patrimoine et donc il faut aussi respecter les autres pays, les autres chercheurs et ne pas en fait récupérer du sédiment qui n'ont pas envie que l'on sorte de leur pays et c'est tout à fait compréhensible.
Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de nous montrer, des surprises que vous avez eues, vous, en procédant au rangement de tous ces sédiments?
Par exemple, on a trouvé plusieurs plâtres qui viennent du site de Robiac, qui a été très étudié dans les années 80.
Je m'avance, c'est ce qui est là? Oui, vous me montrez ça. Ça du doigt?
En fait, là, c'est des plâtres. Donc, quand on trouve un fossile qui affleure et on fait un gros plâtre tout autour, on creuse le plus large possible pour éviter d'endommager le fossile, le retourne comme ça, et on a un plâtre. Ces plâtres, généralement, on les ouvre et on les prépare, c'est-à-dire qu'on va retirer les sédiments et garder que le fossile. Mais là, je pense qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de plâtres et qu'ils ont eu du mal à les stocker, et donc ils étaient stockés, par exemple, derrière les étagères, donc on a dû les récupérer. Sinon, on peut aussi parler de sacs qui avaient été récupérés en 1968, qui viennent de du site des Milles, juste à côté d'Aix-en-Provence. Et nous, on s'est dit, ces sacs-là, ils sont là depuis très longtemps, on ne les a toujours pas étudiés. Donc on a contacté nos collègues du Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence, qui étaient très intéressés en fait, par les récupérer, puisque c'est un site qui n'est pas forcément très accessible aujourd'hui. Et donc c'est encore une pierre de plus dans notre collaboration avec les autres équipes et l'entraide entre chercheurs.
Et là, autour des plâtres, je vois, on est grosso modo envahi par les sédiments. Et là, par contre, on a des tout petits tubes à essai, minuscules en verre à côté. C'est quoi? C'est des fossiles qu'on a à l'intérieur?
Oui. Là, si vous regardez, en fait, c'est un petit tube en verre avec un bouchon de liège. Et dans ce bouchon de liège, il y a une aiguille qui est plantée. Et au bout de l'aiguille, vous avez en fait une petite dent.
Ah oui, c'est tout tout petit, parce que le tube fait la taille d'un petit doigt, d'un très petit doigt d'ailleurs.
D'un petit doigt d'enfant, on va dire. Mais en fait, c'est parce que c'est une dent de rongeur. Alors là, c'est un paramyidé, donc c'est un rongeur qui a 40 millions d'années. Et c'est des toutes petites dents, et c'est justement ce qu'on peut trouver dans un sac. Comme vous voyez, à l'œil nu, lorsque vous êtes en train de fouiller au couteau et au pinceau, c'est pas forcément visible. Et encore, le couteau et le pinceau, c'est la dernière étape. Est-ce qu'on vous fouillez à la pioche, là, bonne chance pour le trouver.
C'est vrai que ça donne une idée, je remontre pour le décrire. Mais alors vraiment, ça a la taille d'une tête d'épingle, c'est littéralement. Ça, on doit le trouver dans un sac rempli de sédiments. C'est ce qu'ils appellent chercher une aiguille dans une botte de foin, en pierre.
C'est ça, exactement. Et là, on peut pas utiliser d'aimant. On est obligé de fouiller, on est obligé de trier grain par grain. Parce que les fossiles font la taille d'un grain de sable.
Je me permets d'avancer encore un petit peu dans la collection. Là par exemple, je vois un bidon. Il y a aussi plein de touques, enfin de gros bidons en plastique et de bidons comme ça. C'est aussi des sédiments à l'intérieur. Alors, il y a écrit requin et raie dessus.
Alors là, non, ça c'est pas des sédiments, mais c'est des touques où il y a du matériel de requin en fait qui va être étudié, qui va être disséqué, mais qui sont en fluide et étant donné qu'on a de l'espace. Ils sont stockés là en attendant parce que des touques de plusieurs litres, je crois qu'elles font 50 litres, c'est pas forcément facile à stocker, donc on avait de la place, on les a récupérés. Donc c'est un peu aussi une sorte de cabinet de curiosité qu'on a ici.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez envie de nous montrer ou nous raconter sur ce que vous avez fait ici?
On avait aussi une salle de matériel, en fait, le matériel du terrain, quand on part sur le terrain, donc tout ce qui était pelle, pioche, les cantines, les bouteilles de gaz, les sacs, les boîtes. On stockait ça en fait dans une petite salle et on a profité du grand déménagement. On avait en fait ce qu'on appelait la salle des petits sédiments, où on avait plein de sacs où on avait récupéré justement le résidu de triage, qu'on a décidé de déménager et de réaménager dans notre salle de matériel. Donc on a fait des petites découvertes, on a retrouvé le matériel parfois un petit peu désuet de la génération d'avant. Et même si forcément celui-là on ne va pas trop l'utiliser, ça fait toujours plaisir de retrouver les vieilles lampes qui avaient été utilisées dans le Quercy au tout début des années, les échafaudages qui sont plus vieux que nous.
On fait une plongée historique en fait dans cette salle.
C'est ça, et c'est notre héritage, notre héritage scientifique, mais aussi notre héritage humain de cette salle, puisqu'on en retrouve un peu aussi toutes les petites solutions, toutes les petites astuces qui se sont aussi transmises à nous. Et donc, c'était intéressant, c'était important pour nous de réhabiliter ces salles, comme on peut dire.
Une belle plongée dans le passé. Merci beaucoup, Quentin.
De rien.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ses mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.